Un grand plaisir de le recevoir en studio. Le bloc de 16 heures là, dans l'été, on l'utilise justement pour faire des entrevues avec des athlètes, des gens qui gravitent autour du monde du sport. Et c'est un plaisir, c'est un honneur de le recevoir en studio. Un journaliste que je respecte et que je lis depuis très, très longtemps. Yves Boisvert de La Presse qui est avec nous en studio. Salut Yves, comment vas-tu?
Ben, ça va très bien, merci de l'invitation.
Ça fait plaisir, merci d'être là. Je l'avais dit en prémisse, en début d'émission, j'ai été surpris de savoir que tu es un grand auditeur de notre station. Tu nous écoutes souvent.
Pourquoi?
Je le sais pas, il y a des gens comme ça qui... Puis le parallèle que j'ai fait, à l'époque, il y avait un champion de NASCAR qui avait passé en entrevue, puis on lui avait demandé, est-ce que parfois, il y a des gens qui viennent te féliciter ou qui te croisent? Il dit oui. J'ai été félicité à un moment donné dans un événement par Morgan Freeman, qui est un grand fan de NASCAR. Mm-hmm. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est un peu la même chose dans ton cas. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois un auditeur de la station.
D'abord, j'aime le sport. J'en consomme. Mais un peu comme tout le monde, j'aime aussi la discussion sur le sport. Ça fait partie du plaisir. Votre station, sur une partie de 60 minutes, vous pouvez faire 12 heures d'antenne. Alors, c'est qu'on aime ça en jaser aussi, oui. L'analyser, le décortiquer. Et puis, comme n'importe qui, le sport, ça, d'abord, il y a la beauté du sport,
ouais.
le dépassement, des performances incroyables. Quel que soit le sport, il y a des gens qui transcendent les capacités humaines. On dirait qu'il y a quelque chose d'héroïque dans le sport. Hein, quand on voit Pogacar au Tour de France et qui survole la compétition, quand on voit un but de McDavid, c'est du grand art, et ainsi de suite, peu importe le sport. Et il y a aussi le fait que de se plonger dans le sport, ça permet de se sortir de tout le reste.
Exactement.
De notre vie quotidienne, mais aussi de notre job. Et dans mon cas, j'écoute pas juste du sport, mais mettons que dans une journée ordinaire, j'ai passé un an à être correspondant aux États-Unis,
ouais.
Si je commence le matin avec du Donald Trump, puis que je mange du Donald Trump, puis que j'écoute des podcasts là-dessus, puis que j'écris là-dessus, rendu vers 9h le soir, peut-être que j'ai plus le goût d'entendre parler de ça, et justement, parce que il y a un aspect un peu obsessif dans notre métier, c'est-à-dire que...
On veut tout savoir, on veut rien manquer.
Exactement.
Toi, t'es dans l'information, nous, on est dans le sport, c'est la même chose. Là. Des fois, Madouce me dit, tu peux lâcher ton téléphone, c'est correct.
Exact.
T'as tout à fait raison, on se rend même plus compte qu'on veut tellement aller chercher les détails qu'on décroche jamais.
Puis si moi, j'ai envoyé ma chronique, je sais pas moi, à 8h30 le soir, puis que là, je continue ça m'arrive évidemment, mais je reste sur CNN là, ou sur les sites d'information, ainsi de suite. Merde, j'aurais dû écrire ça. Ce bout-là n'est pas là. J'avais pas pensé à ça. Et il n'y a pas de fin à ça. Donc, arriver dans le monde du sport, là, je suis dans un autre univers complètement. Et ça me permet de reposer ce hamster-là, mais en partir un autre.
As-tu des sports professionnels que tu tripes plus que d'autres, par exemple? Je sais que, puis on en parlera peut-être un petit peu plus tard, tu es un grand fan d'athlétisme, mm-hmm. Tu as couvert les Olympiques également, ouais. Donc tu as un côté un petit peu professionnel là-dedans, mais par exemple, est-ce que ça t'arrive de t'asseoir le dimanche puis de te faire un dimanche NFL, par exemple?
Non, là, je suis pas un vrai... J'embarque dans la NFL quand c'est les séries.
OK.
Et puis là, évidemment, je regarde, disons, à partir des quarts de finale. Là.
OK.
Et puis, mais moi, demande-moi pas de t'analyser un line-up de la NFL. Je connais pas ça. Puis je regarde le football et j'ai besoin de l'analyse parce que je comprends rien de ce qui se passe. C'est-à-dire, je comprends les évidences, tu vois.
Ouais.
Mais c'est toute la complexité du jeu que je trouve fascinante, je suis pas là-dedans.
Mais je te donnais ça comme exemple. Mais
oui, non, c'est ça. Mais là, OK, bien sûr, il n'y a rien d'original hein, en tant que Québécois.
je suis
Canadien. Ben oui, puis j'étais un très mauvais joueur de hockey, mais j'aime ça regarder ça et suivre ça et voir qu'est-ce qui se passe. Et puis, en particulier ces années-ci, on s'en va vers quelque chose d'intéressant parce qu'on a passé une traversée du désert quand même. Donc ça reste le sport de référence. Mais après ça, comme là, le Tour de France, moi, tous les jours, j'écoute ça en ce moment. Je suis abonné à la plateforme pour l'écouter. J'écoute à la radio française des fois. J'écoute l'émission, on pourrait dire, d'après-match.
Quel duel! On en parlait avec Éric Auziel un peu plus tôt, qui lui aussi est un grand passionné de cyclistes comme ça. Quel duel en ce moment de deux titans.
Oui.
Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard qui s'affrontent. Le Tadej semble avoir la main haute cette année. On ne sait jamais ce qui peut arriver quand même, mais il est largement favori.
On dirait que ces deux-là, qui sont, disons, qui s'affrontent depuis 5 ans, ils n'ont jamais été au sommet en même temps. Quand Vingegaard était à son meilleur, Pogacar n'était pas tout à fait au même niveau. Et après, Vingegaard a eu un accident. Et puis, il n'est plus le même. Je pense qu'il n'est plus le même.
Penses-tu qu'il peut revenir?
Ben, c'est difficile. On dirait, mais ça va savoir ce qui se passe dans la tête d'un coureur. Tu sais, moi, la chose que je déteste dans le cyclisme, c'est quand ils descendent à 100 à l'heure.
C'est incroyable.
Sur le bord des ravins. Moi, ça me stresse au maximum. Et c'est un sport très dangereux à ce niveau-là.
Ouais.
Et si tu as fait une chute puis que tu as pensé mourir, je pense que tu n'es plus le même. La même façon qu'un joueur de hockey qui se fait accrocher devant le but ou n'importe où ailleurs, qu'il y a une commotion cérébrale, ça tente moins d'aller dans le trafic après.
Ouais.
Alors, donc, en ce moment, il n'y a pas tant de compétition finalement. Mais même à ça, moi, des fois, je regarde ça le matin, et les images de la France, c'est formidable.
C'est beau, ça n'a pas de sens. Les
stratégies d'équipe. Donc, tout ça, pour moi, est bien intéressant. Mais je dois dire, en y repensant avant de venir ici, en fait, ma première job à la presse, ça a été dans le cahier des sports. Moi, la première chose que j'ai faite pendant l'été où j'étais stagiaire, ils ont mis dehors le chroniqueur d'échecs. Oui, quand je vais voir des jeunes journalistes, je leur dis, oui, à une époque dans la presse, il y avait une page, là, il y avait la chronique philatélie, la chronique bridge et la chronique échecs. Et moi, je faisais les échecs.
C'est comme ça que tu as commencé à la presse?
C'est comme ça que j'ai commencé à la presse. Et le directeur des sports à l'époque, Michel Blanchard, qui était, on va dire, assez flyé, avait décidé qu'on allait couvrir... Il y a un Canadien, un Montréalais, en fait, Kevin Spraggett, qui a atteint les quarts de finale du championnat du monde. C'était jamais arrivé. C'est comme si c'était faufilé dans la compétition. Et c'est pas arrivé depuis, bien sûr. À l'époque, sur les 100 meilleurs joueurs au monde, il y en avait plus que la moitié qui était d'Union soviétique. En URSS, en Russie, mais en URSS, c'était considéré comme un sport, et même le sport national. Ça avait statut de sport national, les échecs. Et c'était important pour le régime soviétique, socialiste, communiste, de montrer la supériorité intellectuelle du régime en faisant en sorte qu'ils soient les meilleurs là-dedans. C'est considéré. Maintenant, il y a des ordinateurs, ça a perdu du prestige. Mais donc, à l'époque, les Russes dominaient ça. Donc, ce Canadien-là se faufile, arrive quart de finale du championnat du monde à Québec contre un Russe. Et moi, il m'envoie là, puis il me dit, tu vas écrire tous les jours dans le cahier des sports. C'est un match d'échecs, hein? Alors, il faut que tu décrives ça. Tu mets de l'atmosphère.
Attendu à apprendre rapidement, là, le learning curve.
et là, j'ai décidé que j'aurais du fun. C'est pas de l'analyse pointue d'un grand maître, là. Donc, c'était un événement aussi, puis en tout cas. Donc, j'écrivais dans les sports quand je parlais d'échecs. Puis, par la suite, après le 11 septembre, il y avait les Jeux de Salt Lake City.
Oui.
Donc, février 2002.
Oui.
Et il y avait une tension incroyable. Tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait un nouvel attentat terroriste.
Mm-hmm.
Et quel meilleur endroit que les Jeux olympiques. Et même les autorités américaines, le responsable de la sécurité intérieure, avait dit « C'est 100% sûr qu'il va y avoir un autre attentat terroriste. » Heureusement, il n'y en a pas eu. Rien qui ressemble à ça, en tout cas. Donc, moi, qui n'étais pas un gars des sports, la presse m'a envoyé à Salt Lake City pour voir si
courir
d'autres choses, mais aussi des sports. Finalement, il n'y a pas eu, d'incident.
Et ils viennent de garantir qu'il va y avoir un attentat. Vas-y!
Oui, c'est pas comme ça, mais c'est un peu ça, dans le fond. Et il n'y en a pas eu. Donc, j'ai couvert plein de compétitions avec l'équipe qui était là. Il y avait Simon Drouin qui fait encore ça, qui est un spécialiste de plusieurs sports olympiques.
Excellent.
Ben oui. Et donc, après ça, je suis revenu à partir des Jeux d'été de 2012 à Londres. Puis, j'ai fait tous les Jeux jusqu'à l'an dernier. Je devais faire Paris, mais là, j'étais aux États-Unis. J'étais correspondant aux États-Unis, donc je couvrais la campagne électorale présidentielle. J'avais dit à mon patron, mais c'est pas grave, je peux aller aux Jeux olympiques, il se passe jamais rien l'été. Puis là, il y a un attentat sur Donald Trump un certain jour
vrai,
de juillet.
Tu devais être à Paris l'été dernier avant de t'en aller aux États-Unis.
Oui, là, mon boss m'écrit, il dit, ah, il se passe rien l'été aux États-Unis, hein? Mm-hmm. Imagine, t'aurais été en train de couvrir le 10 000 mètres à Paris. Donc,
mais comment t'apprécies ça, toi qui couvres beaucoup plus les questions politiques habituellement, d'arriver une fois par deux ans ou une fois par quatre ans, comme ça, sporadiquement, puis de couvrir la chose sportive, de couvrir des grands événements sportifs internationaux de cette façon-là?
Bien, d'abord, j'y vais modestement en tant que non-spécialiste, quoique à la fin, finalement, je commence à connaître un peu ça, l'athlétisme.
On commence à comprendre la game après.
Mais je le vois aussi comme un événement politique, social, parce que les Jeux olympiques, et c'est ça qui est fascinant, tout d'un coup, les yeux du monde sont sur un endroit et les histoires humaines sont partout. Les histoires incroyables. Donc, toute la politique mondiale se ramasse dans le sport pendant deux semaines. Évidemment, il y a les performances sportives, c'est le principal. Mais autour de ça, il y a tellement de choses qui se déploient, les histoires, d'une certaine façon, te sautent dessus.
C'est ça la richesse des Olympiques.
Ben oui, à un moment donné, tu marches, puis dans les rues de je me rappelle, c'était au jeu de Pyeongchang, en Corée, et...
En 2018,
il y avait un skieur pakistanais. Et il m'explique, parce que tu as les plus belles montagnes là-bas au Pakistan. Mais évidemment, il n'y a pas la richesse pour développer le sport de haut niveau. Ben, lui, il me raconte que dans son école, il y a eu un programme, puis il y a eu un programme spécial, puis il a pu faire partie de ce programme-là. Et puis, alors, des histoires comme ça, sans arrêt, un jeune noir sud-africain dans l'équipe d'aviron, il n'y a pas de sport plus... aristocratique, blanc que l'aviron. Hein? C'est Oxford, Cambridge, c'est les grandes universités américaines sur la rivière Charles. T'es déjà allé à Boston.
Ouais.
Bon. Et là, il y avait, dans l'équipe sud-africaine qui a gagné l'or, il y avait un noir. C'était pas si longtemps après la fin de l'apartheid. Mais ce gars-là m'explique comment lui avait été intégré là-dedans, même si il n'y en a pas beaucoup des Noirs sud-africains qui ont accès à ces programmes-là, mais lui aussi à l'école. Bon, je te donne ces exemples-là. En même temps, j'ai vu des performances sportives incroyables. J'ai vu Usain Bolt, j'ai vu gagner deux fois trois médailles, en fait. Et d'autres courants, parce que je passe beaucoup de temps à l'athlétisme.
Oui, parce que tu es un grand fan, notamment d'athlétisme, mais vois-tu ton... puis je vais te poser cette question-là avant la pause, mais vois-tu un peu, tu dis, j'arrive pas en étant un grand analyste de sport, mais tu es un grand journaliste de métier qui fait ça depuis très longtemps. Vois-tu ça comme une force, justement, quand tu couvres les Jeux olympiques, de dire, tu sais, je sais pas si, par exemple... quelqu'un qui se concentre sur les performances sportives uniquement, irait vers les mêmes histoires que toi, tu t'en racontais dans la presse?
Peut-être, on le fait tous avec notre couleur, tu sais, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je n'ai pas couvert les athlètes au jour le jour pendant les quatre ans qu'ils n'ont pas été aux Jeux olympiques.
Exact.
Sauf que je suis quand même un certain nombre de sports d'assez près. Ce qui fait que maintenant, je suis pas perdu si j'arrive à la piste d'athlétisme. Donc, tu as raison, on le fait, c'est le même métier. Tu dois aller prendre tes informations, tu dois aller vérifier, tu dois creuser, tu dois aller chercher, tu dois t'informer le plus possible pour pouvoir ensuite faire des articles qui vont être un peu éclairants ou qui
c'est, pas trop ennuyants. C'est au prochain Jeux olympiques à Milan?
Je le sais pas encore. Je le sais pas encore.
On va appeler le boss des sports.
Oui, s'il vous plaît. C'est pour ça que je suis venu ici.
On va appeler Yves Boisvert est en campagne. on va appeler. C'est Jean-François Tremblay. Bien sûr, oui, on va l'appeler. On va lui donner un petit coup de fil.
Pas tout de suite, s'il vous plaît.
Dans les deux prochaines minutes, d'ailleurs, on s'occupe de ça pendant la pause et on revient. On a plusieurs autres questions. Yves a d'ailleurs écrit beaucoup sur l'exode, si on veut, des jeunes joueurs de hockey d'ici qui jouent dans la NCAA. On va en discuter avec Yves Boisvert dans deux minutes. J'en ai appris beaucoup dans les échecs grâce à Yves Boisvert durant la pause et grâce à Olivier Paiement qui en échappe pas une. Il dit, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a texté sur la messagerie texte, dit « Je suis un fan d'échecs et Magnus Carlsen est tout un athlète.
Ouais. »
Et ça, j'ai appris que c'est le numéro un au monde depuis plus d'une décennie d'ailleurs. Puis je connais absolument rien là-dedans. Pas besoin de te dire que la dernière fois que j'ai joué aux échecs, dis-je bien, je pense que j'ai été au primaire. Chose comme ça.
Ce niveau-là, vraiment, il faut être en forme physiquement. Je te dis pas que ça se compare à un athlète de haut niveau au plan physique, mais il faut avoir un bon niveau de santé.
Ça prend une clarté mentale, puis ça vient avec la santé physique, là, ça c'est sûr. Je me souviens, il y avait des champions de poker qui s'entraînaient très, très fort aussi, et qui étaient très bons à la course d'endurance également, parce que les événements durent longtemps. Ouais. Et tu dois ta santé physique, justement, là, ton endurance vient qu'apparaître dans ces événements-là aussi, là, qui peuvent durer combien de temps? Des jours et des jours, là, les World Series, par exemple?
De poker?
Oui, de poker, à ce moment-là.
Ça, c'est pas dans mon champ.
Moi non plus, mais bref, cela étant dit, t'as été, je pense que t'as une bonne opinion sur les joueurs de hockey junior, d'âge junior ici, qui... se déplace vers la NCAA avec les offres. Tu as écrit quelques articles là-dessus.
Ben, en fait, moi, c'est mais j'ai trois garçons. Ils sont maintenant d'âge adulte. Mais donc, j'ai été beaucoup dans les arénas. J'ai fréquenté ce milieu-là. Ils n'ont jamais été de niveau, disons, de
NCAA.
Non. Mais j'ai vu quand même comment tout ça est organisé. Et ce que moi je déplore dans le système, c'est que le système de hockey junior, il est centré sur sur le hockey, au lieu d'être centré sur le monde scolaire. Et autrement dit, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi au football, personne remet en question le fait que ça passe par le cégep. Ça passe par l'université, puis tu amènes les gens à l'école, à persévérer dans l'école, et même à atteindre des niveaux scolaires qu'ils n'auraient peut-être pas atteints s'ils n'avaient pas eu le sport. Donc, c'est un outil formidable, mais qu'au hockey, on fait le contraire. Je sais qu'il y a des bourses, je sais que c'est encadré, je sais que c'est mieux qu'avant. C'est mieux qu'avant aussi parce qu'il a été très critiqué. Mais tu as un système où tu as, je pense que c'est 68 matchs maintenant, tu as des équipes réparties. Il y en a, on va rouvrir Terre-Neuve.
Oui.
Terre-Neuve est un peu...
Ça a été très controversé aussi quand on est retourné là-bas.
Terre-Neuve est au hockey junior québécois, parce que Atlanta est à la Ligue nationale de hockey. C'est sa ferme, mais ça rouvre tout le temps. Puis Dieu sait que les gens de Terre-Neuve sont sympathiques, mais là, tu as un système de hockey qui est basé sur... Il y a de l'école qui accompagne des équipes de hockey.
Entre les voyages d'autobus et tout le reste. Puis on n'est pas en train de blâmer, par exemple, les ligues juniors canadiennes, mais c'est le système dans lequel les joueurs doivent naviguer présentement, comparativement, par exemple, à. Le système universitaire arrive après, mais comme tu dis au football, où est-ce qu'on doit être un étudiant athlète.
Oui.
Là, on est des athlètes qui étudient.
Qui étudient plus ou moins. Dans certains cas, bien. Dans certains cas, beaucoup. Dans certains cas, moins. Puis je ne dis pas non plus que ce n'est pas une bonne expérience pour un jeune de faire ça. Mais moi, je pense qu'on perd une occasion de joindre ça à l'école et de faire en sorte que l'école soit la priorité. Donc, dans la hiérarchie, c'est comme renversé. À mon humble opinion.
Penses-tu qu'on gagnerait à développer le système scolaire, que ce soit au cégep, mais que ce soit universitaire? Moi, on s'est renseigné un petit peu là-dessus. On a trois équipes universitaires de hockey masculin au Québec.
Oui.
Et qui jouent en Ontario. Parce qu'on n'en a pas assez pour, et je suis certain qu'il y aurait de la demande pour ça, au nombre de joueurs et de joueuses de hockey qu'on a, on serait capable de remplir des équipes, j'en ai aucun doute.
Bien, absolument. Puis le Cégep aussi, ça a déjà... On ne fera pas le débat, là. Ça a été, il y a une trentaine d'années, il y avait une ligue de collégiale 3A. Ça reprend un peu par la bande. Il y a des initiatives ici et là. Mais tu joues... Quand tu es dans la NCAA, puis si on regarde les repêchages, peut-être pas cette année, mais des dernières années, bien, ils produisent des hockeyeurs d'élite. Et bien sûr, ce que je te dis là, ça ne s'adresse pas aux meilleurs joueurs de hockey. Parce qu'eux autres... Jouer 70, 75, 80 matchs, c'est peut-être très bon pour leur développement.
Ouais.
Moi, ça, eux ont, quel que soit le système, là, les joueurs qui sont destinés à faire carrière dans la Ligue nationale,
ils vont s'y rendre.
Ils vont s'en sortir, ça va bien aller.
Exact.
Alors, mon propos est même pas quel est le meilleur système pour développer au plan athlétique les joueurs de hockey. Ça, il y a des opinions là-dessus. Je sais, Martin Leclerc a beaucoup écrit et ouais, discuté là-dessus.
Absolument.
Moi, c'est pour les 99% qui n'iront jamais dans la Ligue nationale. Et donc, c'est pour moi, c'est une occasion perdue. Mais là, on ne refera pas le système. Il est implanté et il y a beaucoup de résistance. Par contre, avec ce qui se passe en ce moment, où les grandes vedettes risque d'être attiré, mais là, pour des raisons financières aussi aux États-Unis, parce absolument, que ça, on ne sera jamais capable de concurrencer avec les grandes équipes américaines qui ont des énormes budgets et qui maintenant ont le droit de payer les
athlètes. Ah, puis il y en a qui vont y aller, au même titre qu'au football, parce que tu fais le parallèle, il y en a qui y vont. Benjamin Saint-Just est allé jouer
ben
là-bas.
Oui, parfait.
Étienne Boulay est allé jouer ben oui, là-bas. Mathieu Bergeron, ça a été la même chose, si je ne m'abuse. Oui, il a joué aux États-Unis, Mathieu. Il y en a qui ont joué ici au Canada également. Donc, il va en avoir.
Mais là, peut-être y avoir une remise en question. Parce que justement...
Ben, il faut.
Et surtout dans le reste du Canada, parce qu'ici, il y a quand même la barrière linguistique. C'est pas tout le monde qui est prêt à aller étudier en anglais du jour au lendemain. Mais donc, moi, ça a toujours été ça, ma critique du système de hockey junior actuel, et qui n'est pas pour dire qu'il n'y a rien de bon qui se fait, ni que les joueurs qui sortent de là sont mal développés, mais il me semble que c'est pas... On renverse les priorités.
Non, mais je pense que ta question, ta critique constructive, si on veut, est très d'actualité, parce que ça pourrait être une façon, si on veut, de contrer ce possible exode des joueurs d'ici, d'aller vers les États-Unis. D'ailleurs, tu sais, ben, en fait, si tu veux aller jouer à NCAA, c'est un offre, ça te prend un dossier académique en partant.
Oui.
Donc, il faut prendre les études au sérieux. Je pense qu'il y a déjà eu de bonnes améliorations de ce qui se fait dans le hockey junior, je veux dire canadien, là, que ce
oui,
soit au Québec ou dans les autres ligues également. Mais est-ce qu'il y a encore place à l'amélioration, puis il faut encore travailler là-dessus, ou est-ce que ça peut passer également par un système scolaire, puis que tout le monde peut être heureux là-dedans? Écoute, moi, je suis un éternel optimiste, peut-être trop selon certains, mais j'y crois également.
Parce que on est tellement fous de hockey que... On regarde le hockey junior comme une petite ligue nationale. On regarde ça comme du presque professionnel.
Exact.
Et je trouve que c'est une erreur. Hey, mais ça n'empêche pas qu'on regarde aussi le sport NCAA. C'est immensément populaire. Le plus gros stade aux États-Unis, c'est un stade de football.
C'est quelle équipe qui a une masse salariale de 24 millions que je t'ai envoyé cette semaine? C'est-tu Ohio State ou c'est Texas? C'est sorti. Là. La masse salariale des joueurs de cette année, une équipe universitaire, c'est de 24 millions de dollars.
Ouais,
on est rendu là avec les NIL. Ça va continuer de grandir, mais bref, merci beaucoup. Et ça a été beaucoup trop court, Yves. J'aurais continué une autre demi-heure avec toi encore.
Moi aussi.
On fera ça. Hein, ce sera un autre rendez-vous, mais d'ici là, bonne fin de Tour de France. On est déjà rendu un petit peu plus de la moitié.
Oui.
Ça a été une autre étape quand même assez spectaculaire aujourd'hui, le contre-la-montre en montagne. Quand je regarde les statistiques de ces gars-là, ça me fait halluciner.
Non, c'est complètement malade.
Et je me dis que je vais continuer de faire ça de façon récréative,
oui,
n'est-ce pas?
Oui.
Merci encore.
Merci de l'invitation.
Bonne fin de Tour de France.
Merci.
Bon été.
À la prochaine.
Et à très bientôt.
Salut.